Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire à grosses gouttes le catch, the wrestling heart. Nous sommes ici pour le SmackDown du 26 juin 2020 au Performance Center, en permanence ici chaque semaine. Nous faisons des performances, c'est le centre des performances, des analyses de catch, on décortique, on critique, on résume les shows de la WWE et qu'on sort. Je suis Raphaël pour ce show bleu exceptionnel, ce show bleu au parfum de maison de retraite. Alors donc, qui mieux que l'ami Papy pour en parler? Comment vas-tu Papy? Comment ça se passe là-bas à la maison?
Bonjour Raphaël, bonjour les petits enfants. Ça va. On est content parce que on va pouvoir accueillir un membre à plein temps désormais dans notre maison de retraite. Donc on a sorti les cotillons, les flonflons, tous ces trucs là. Puis on est prêt à faire la grosse teuf.
Ah ben j'imagine bien, ça va être chaud patate. Donc quel arrivant. Alors il avait déjà fait des petits passages, hein, maison de retraite, mais il était plus des CDD, il était ressorti. A priori, là, c'est bon, c'est définitif, nous voulons parler, ni plus ni moins que de la plus grande, peut-être légende de la WWE, The Phenom, l'Undertaker, qui a annoncé d'une manière assez nouvelle, puisque c'était à la fin du dernier épisode de cette série documentaire intitulée The Last Ride, qui a suivi ces dernières années de catch. On aurait peut-être pu s'en douter vu le titre et la tournure de l'émission, mais voilà, en fait, ça finit par l'annonce de la retraite de Mark Calaway des rings de la WWE. Donc ce soir, ça sera la majeure partie du show. On parle quand même de quelqu'un qui avait presque atteint les 30 ans de retraite à la WWE. Il avait commencé en novembre 1990. Si ma mémoire est bonne. Donc,
oui, c'est ça, c'est ça, sur ouais,
c'est ça, au Survivor Series 1990. Donc, un clip d'introduction qui nous remet les plus grands moments de sa carrière. Et je ne vais pas tous les lister, mais ils sont très liés évidemment à WrestleMania, à toutes ses rivalités contre tout le monde. Son frère Kane, on a revu le regretté Paul Bearer, on a revu Shawn Michaels, évidemment, tout ça. Tout le monde au début du show, mais les catcheurs de SmackDown sont là pour applaudir et pour remercier. Thank you Taker, on retrouve Jeff Hardy, Miz et Morrison, Braun Strowman, le New Day. Et tout au long de l'émission, nous aurons des séquences Tribute to The Undertaker, où on revoit sa première apparition, donc dont on parlait. Et on a aussi des interviews de beaucoup de stars qui l'ont côtoyé, donc notamment John Cena, Roman Reigns, que l'on revoit, AJ Christian. Il y a aussi Ric Flair, Kane, Stone Cold, Triple H. On finit par Batista et Mick Foley. Mick Foley, assez émouvant, hein, qui dit que tout ce que l'Undertaker a apporté dans sa carrière personnelle à lui, ça a été déterminant. Batista qui dit qu'on a eu de la chance de pouvoir assister à la carrière de cet homme hors du commun. Donc, qu'est-ce que ça te fait, la retraite de l'Undertaker? Je précise, mais on va pas s'attarder dessus, qui nous ont quand même repassé tout le dernier match de l'Undertaker, le Boneyard Match, où il a affronté à WrestleMania AJ Styles dans cette rencontre dans un cimetière, qu'il a remporté, dont il est reparti sur sa moto. C'était un beau signe d'au revoir aussi. Voilà, Papy, tu es là depuis toujours. Est-ce que tu étais là en novembre 90? Quels sont tes moments les plus marquants? On peut parler un petit peu là de notre fanatisme, de notre fanboy, de notre degré pour nous, où est-ce qu'on place l'Undertaker sur cette carte, dans le panthéon du monde du catch, avant qu'il soit officiellement Hall of Famer. Beaucoup d'émotions, qu'est-ce que t'en penses, Papy?
Ah, c'est très émouvant. Moi, je me souviens de l'année 90, c'était une année où je pouvais aller encore pisser tout seul. Donc, c'est marquant pour moi de retrouver cette époque-là d'il y a 30 ans, où j'étais en pleine autonomie. C'était beau. Plus sérieusement, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais à est-ce que l'Undertaker est la plus grande star de tous les temps et du catch. Et en fait, je me disais, j'ai l'impression qu'il est un poil moins mainstream que l'a été pour Hulk Hogan ou Cena peut-être maintenant, ou le Rock forcément. Par contre, n'importe qui a déjà regardé un show de catch de la WWE, tu lui parles d'Undertaker, il fait « Ah, mais oui, je vois qui c'est. Ah, il est encore en train de catcher !» ou ce genre de choses, en fait. Donc, je me dis que quelque part, il était ultra marquant pour quiconque a déjà vu du catch. Donc, en termes de catch, ouais, je le mettrais en numéro 1, moi, pour le catch en lui-même, en fait. même si bah forcément que sa personnalité un peu sombre, il devait pas enchaîner les interviews, et donc du coup je suis pas convaincu que quelqu'un qui n'ait jamais regardé de catch puisse mettre son nom sur sa photo, quoi. Et puis pour le reste, bah ouais, alors des moments marquants, bah j'en ai, enfin il y en a des tonnes en fait, parce que quelque part à chaque fois qu'il arrivait, c'était un événement. Forcément, moi j'ai en tête des événements récents et notamment la double rivalité avec Shawn Michaels, qu'on a aussi pas mal vu dans The Last Ride, qui se termine aussi par la retraite de Shawn Michaels. Donc en plus, moi Shawn Michaels c'était mon préféré dans le ring. Donc du coup là, ça faisait vraiment des deux icônes qui se rencontraient, c'est quelque chose de particulier. Et donc voilà, bah c'est une page qui se tourne. Et puis, moi j'ai regardé le The Last Ride, je sais pas si toi t'as regardé, moi je les ai regardés tous les épisodes. Et au fur et à mesure que ça avançait, tu sentais que ça se dirigeait vers ça en fait. Parce qu'à chaque fois, il était de moins en moins content de ses performances. Mm-hmm. Il cherchait à sortir par la grande porte. Et puis en même temps, voilà, il commençait à prendre. À se dire, bah, j'aimerais bien passer du temps en famille, etc. Enfin, et ça commence un peu à vraiment le chambouler. Donc, bah, je suis surpris qu'il n'ait pas fini sur la voir série là, en 2020 pour faire 30 ans tout pile. Mais finalement, vu la construction de sa réflexion, je ne suis pas si étonné que ça, en fait.
Ouais, je suis assez surpris quand même, oui, comme tu le dis, qu'ils n'aient pas fermé le livre au Survivor Series. En plus, on est très ému, mais quelque part, moi j'ai une petite pointe de ben, j'aurais bien aimé que ça se passe en public. Et honnêtement, l'Undertaker est vieux, l'Undertaker est fatigué. Bon, quand il parle de. J'ai pas vu, malheureusement, la stride, j'ai un peu raté les 2-3 premiers épisodes. Je me suis dit que quand ça finirait, je me ferais une grosse session un jour où j'aurai du temps. Bon, là, du coup, je les regarderai, je pense, mais du coup, bah, raté la grosse info, c'est un peu passé. Bon, il était quand même très part-timer, donc je pense que du temps en famille et du temps avec ses proches, il en avait. Je suis un peu déçu, ça n'entache rien de tout ce qu'il a fait, mais voilà, je suis un peu étonné plutôt qu'il n'ait pas envisagé quelque chose in-ring et pour ses 30 ans de carrière, je sais pas, un dernier match contre Kane peut-être ou contre n'importe qui en fait, mais... Bon, le contexte.
Après, est-ce que physiquement il se sent capable, c'est ça aussi le truc, parce que comme il le dit, en fait, le fait d'être part-timer, bah, ça fait qu'à chaque fois qu'il revient, c'est une galère complète, quoi. Puis il souffre comme jamais, parce que son corps est plus habitué, il prend vraiment mal, il se fait vraiment mal. Donc, ouais, quand je disais de passer plus de temps avec sa famille, c'est sous-entendu en bon état, quoi.
Ouais, et puis. Oui. Ce dernier match était quand même un peu spécial, dans le sens où il a sûrement fait des efforts physiques, mais le montage vidéo a dû largement le préserver de gros efforts, quoi. Donc, c'était encore un contexte un peu particulier. Moi, je pense que c'est Ric Flair a dit la bonne phrase, hein, c'est que c'est le plus grand personnage, en fait, de l'histoire de la WWE. Il y a cette musique, il y a cette entrée, il y a toute cette gimmick qui fait que, oui, si on prend à l'échelle mondiale, mainstream, il est beaucoup moins connu que un The Rock qui est superstar de Hollywood, que John Cena ou peut-être même que Batista maintenant qui joue dans les films Marvel ou Hulk Hogan évidemment, mais dans cet univers des fans de catch, bah c'est la gimmick ultime en fait, on a envie de dire. C'est les réseaux sociaux, ils l'appellent The Cornerstone, donc la pierre angulaire de chaque décennie, hein. Il était à l'époque de la décennie de Stone Cold, à l'époque de la décennie de John Cena, là, même à l'époque de la décennie de Roman Reigns et des autres, il était là. Donc, c'est quand même une très longue carrière. La feud contre Shawn Michaels, évidemment, on s'en souvient. Moi, ça me touche d'autant plus que je suis venu au catch grâce à l'Undertaker. Ça restera pour toujours le premier mec que j'ai vu sur un écran, sur un ring, et que je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc? C'est un peu autre chose que du sport quand même, puisqu'il y a un mort-vivant qui est là, donc c'est un peu étonnant. Et c'était la feud à l'époque, c'était contre Edge, contre La Familia, avec Vicky Guerrero, avec tout ça, donc ça reste pour moi du très haut standard dans ma tête, et il y en a eu beaucoup depuis. Est-ce qu'on peut dire que le premier WrestleMania, le premier match de WrestleMania contre Shawn Michaels, pas celui de la retraite de Shawn Michaels, mais celui d'avant, est-ce que c'était peut-être un des plus grands matchs de la WWE qu'on ait connu?
Peut-être, ouais. En plus, c'est celui-là, je crois, où t'as l'Undertaker qui a deux doigts de se tuer en faisant son saut par-dessus les cordes, là, je sais plus comment on appelle cette prise, mais bon, en gros, il saute par-dessus les cordes et puis il raterrit. Enfin, t'as Shawn Michaels qui tire un caméraman.
Ouais.
Et il raterrit la tête en avant sur le sol, l'ami Taker.
Ouais. Oh, c'est un match. C'était un match incroyable. N'hésitez pas à revoir, de toute façon, les meilleurs matchs de l'Undertaker. Il y a sûrement des DVD où il va y en avoir d'autres, mais bah ouais, une légende du catch qui s'en va et qui tire sa révérence. Donc, The Cowboy Finally Rides Away. Le cowboy, finalement, nous quitte.
Yes. Et puis, tu vois, en fait, il le dit. Je crois que c'est dans The Last Ride qu'il en parle. Bon, désolé s'il y a un petit spoiler, sinon bouchez-vous les oreilles pendant une minute. Mm-hmm. Il explique en fait que dans son damage contre J-Style, en fait, t'as un peu les trois personnalités de... Bon, je l'ai lu sur Internet, je sais plus. Trois personnalités du Taker, en fait. T'as à la fois le Deadman, t'as à la fois l'American Badass, et puis t'as Mark Calloway, en fait, parce qu'il s'appelle tout le temps par le prénom, etc. Donc pour lui, c'est une manière, en fait, de bien fermer le bouquin sur son personnage, en fait, en disant bah voilà, j'ai ce match là il récapitule tout ce qui s'est passé pour moi, et donc du coup, bah, avec ce match là je mets un beau point final à l'ensemble de mon histoire, en fait. Raphaël, are you here?
Ça te paraît une bonne chose, une bonne fin?
Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu ta question.
Oui, on a eu un petit décalage de son, je crois. Je disais AJ Styles comme dernier adversaire pour cette carrière de légende, c'est pas mal, non?
Oui, bah c'est pas mal. Alors c'est pas mal pour deux trucs. D'une part, parce qu'effectivement, AJ Styles, c'est le mec qui va te donner pour ton argent, en fait, en termes de catch. Et je pense que globalement, dans le roster actuel, t'as pas beaucoup de mecs meilleurs que lui en termes de personnalité, enfin de mm-hmm. comment dire, de ouais, j'ai l'air de charisme. C'est au-delà du charisme, en fait. C'est l'importance qu'il a en tant que catcheur. Et d'un autre côté, c'est un adversaire qui n'avait jamais affronté le Taker, donc c'était très bien qu'il puisse avoir cet affrontement-là. Ça se finit par un affrontement inédit en plus, donc c'est plutôt bien. Et en plus, bon, je vais encore faire une fois référence au Last Ride, spoiler alert.
Regardez-le.
Voilà, vous avez bien bouché vos oreilles, j'y vais. Tu vois, en fait, dans le reportage, quand il regarde AJ Styles, le Taker, il se dit j'aurais bien aimé faire un match en plus, ce gars-là. Mmh. Et a priori, en plus, ils se connaissent. Enfin, les femmes respectives se connaissent, ou je sais plus quoi. Enfin, rien. Bon, je veux pas aller là-dedans, mais bref, c'était un choix pas totalement innocent, en fait. Et voilà quoi. Donc, c'est un très bon choix. C'est une bonne manière de finir. Et puis voilà, ça fait. Je pense que tout le monde ressort gagnant de ce dernier match.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et alors, petite dernière question sur cette affaire. Est-ce que tu aurais quand même un regret? Est-ce que s'il y avait un adversaire que tu aurais voulu voir contre l'Undertaker, alors évidemment pas contre un Undertaker tout cassé en morceaux, mais contre un Undertaker correct, là, dans le roster actuel ou dans le roster passé, qui aurais-tu aimé voir, par exemple, sur la streak de WrestleMania et qui n'y est pas, ou un adversaire qui n'a pas eu une feud contre l'Undertaker que tu aurais aimé voir? Est-ce que tu as une idée en tête?
En fait, c'est marrant parce que je pense à quelqu'un, mais qui pourtant a déjà eu son match contre le Taker, c'est Bray Wyatt.
Ouais.
Parce que Bray Wyatt, il a tellement été loin dans son multi-personnage, etc., etc. Alors, j'aurais bien aimé contre un Taker valide, par contre, hein, parce que je crains que malheureusement notre ami Bray soit pas capable de porter un match contre le Taker à lui tout seul. Mais du coup, j'aurais bien aimé voir le Wyatt qui sort un peu tous ses personnages contre l'Undertaker, et pour voir un peu ce que ça donne, vraiment un truc mystique, confrontation de personnages contre personnages, et du coup que ça permette, en fait, de confronter les deux univers à leur plus haut, on va dire. C'est, malheureusement, en termes de comment dire, d'années de présence, ça collait pas trop, quoi. Wyatt est arrivé vraiment sur la fin de l'Undertaker, et le Wyatt du Bayou, même s'il est sympa, il n'était pas encore au top, en fait, pour moi, du personnage de Bray Wyatt, en fait. Donc bon, voilà, ils sont pas croisés au bon moment, en fait.
Ouais, il a été un peu, ça a donné un peu l'impression que le petit jeune avait été un peu sacrifié, hein, parce que ça, il y a eu plusieurs trucs, il y a eu même les Brothers of Destruction contre la Wyatt Family au complet, et puis ouais, non, c'était un peu, les vieux ont toujours gagné, donc la passation de pouvoir a pas été trop faite. Moi, je pensais à Jericho. Ça avait été dit un moment, hein, Jericho à WrestleMania contre l'Undertaker. Ça aurait fait un beau match aussi. Bon, là, c'est fichu. Et puis, dans le roster actuel, bon, il y en a plein. Hein. Je pense qu'on aurait bien aimé voir hein, Daniel Bryan ou Seth Rollins contre le Deadman. Mais voilà, ça restera des dream matchs. Mon petit regret perso, ça reste de ne... Bah, du coup, je ne le verrai jamais en live, contrairement à certains de nos amis qui ont eu cette chance à catch up. Et sur le Discord, il était annoncé à Paris lors d'un des derniers événements de la WWE à Paris. Et finalement, il a été remplacé par Triple H. C'est pas mal aussi, mais c'est pas l'Undertaker quand même.
Oui, c'est sûr que le voir en house show, c'est quelque chose qui doit vraiment filer les frissons. Quoi.
Bah écoutez, si vous nous écoutez et que vous avez eu cette chance, n'hésitez pas à nous raconter. On va s'arrêter là, on aurait beaucoup de choses à dire sur sa carrière, ça ferait presque une émission, ça ferait presque un docu. Mais bah, n'hésitez pas à nous donner vos témoignages de fans de catch, de l'Undertaker, son meilleur match, qu'est-ce qu'il vous a apporté, quand est-ce que vous êtes, où est-ce qu'il en était dans sa carrière quand vous êtes arrivé dans cet univers. Et puis nous, on va continuer, donc le show continue, show must go on, comme dirait l'autre.
Voilà.
Et malheureusement, bah, tout ça est un peu battu en brèche parce qu'au milieu du ring, nous avons King Corbin avec son beau manteau d'hermine et qui se moque complètement de l'Undertaker. Il est vraiment irrespectueux. Il dit que le dernier match du cimetière, c'était parfait parce que l'Undertaker n'est plus qu'un vieux sac d'os. Que s'il a tenu 30 ans de carrière, c'est impossible. La seule solution, c'est, voilà, c'est de kiss le ass de la famille, du boss, voilà, qu'il a été sous protection. Et que à cause de gens comme lui, bah, des petits jeunes comme Corbin ont été gardés un peu au niveau en dessous. Il le traite d'égoïste, son of a bitch. Je ne vais pas traduire, c'est vulgaire. Trouvez sur internet la traduction. Donc il dit I don't thank you. Il insulte presque les fans qui sont autour, les jeunes du Performance Center qui eux chantent des thank you taker. Il va même jusqu'à dire Callaway, you suck. Et là il se fait démonter par derrière par Jeff Hardy qui arrive à toute vitesse et qui le fout dehors. Dans les coulisses, Jeff Hardy, au micro, on dira que pour lui, c'est l'inverse. Hein. C'est tout l'inverse de Corbin. Pour lui, l'Undertaker, c'est une idole, c'est un mentor. Que dans le Mont Rushmore de la WWE, il devrait y avoir quatre visages de l'Undertaker. Donc c'est un fan absolu et qu'il est prêt à défendre l'honneur de son idole. Et ce sera le main event de ce soir, on nous l'annonce. Baron Corbin, enfin King Corbin contre Jeff Hardy. Alors, est-ce que t'aimes bien cette intégration de la retraite de l'Undertaker dans le scénario? Est-ce que Corbin est bien passé dans son rôle d'irrespectueux petit con?
Oui, bah c'est enfin quelque part, bon, Corbin, on sait ce qu'il vaut, ça fait toujours un petit pincement au cœur quand on le voit arriver, parce qu'on se dit toujours, où, là, ça risque d'être pas top. Mais d'autre côté, là, moi, j'aime bien qu'on capitalise vraiment sur tout ce qui se passe en fait dans le monde du catch. Et du coup, bah, là, la retraite du Taker, c'est bien qu'un mec qui soit vraiment le méchant absolu du show bleu, de toute façon, parce que c'est pas le plus puissant, mais c'est celui que personne ne peut piffrer, quoi, de toute façon. Oui. Et donc, le voir lui capitaliser là-dessus, c'est très bien. C'est bien aussi que ce soit Jeff Hardy qui vienne un peu laver l'honneur du Taker, parce que quelque part, autant sur Chiro, t'as pas mal de vieux, autant sur SmackDown, je réfléchissais, il y en a pas 50 hein, des mecs qui ont connu l'histoire du Taker, en fait, qui ont passé des moments avec lui. Et Jeff Hardy avait déjà affronté l'Undertaker à un match à l'échelle notamment.
Ouais.
Donc quelque part c'est bien que celui qui vient de défendre l'honneur en fait du Taker. Donc bah oui, bah c'est le segment qu'il fallait en fait, bon, qui est après ce long hommage au Taker. C'est très bien d'avoir capitalisé là-dessus avec un, enfin ça coulait direct derrière. Quoi, donc bonne chose, bravo.
Ouais, moi j'ai aussi bien trouvé. Ça aurait pu, à la limite, à la place de Corbin, être Sheamus, mais ça aurait pas fait pareil. C'est quand même vraiment, comme tu dis, Baron Corbin, le plus tête à claque de tous. Et puis Jeff, tout à fait légitime. Donc c'est bien qu'on rebondisse là-dessus. On va dire que Corbin ne manque pas de hit, mais voilà, là il s'est fait huer encore un peu plus. Jeff Hardy est venu l'aider, et je pense qu'il aurait pu être aidé par quelqu'un d'autre s'il avait été là aussi au bon moment. Hein, par une légende du catch qui est un grand ami de l'Undertaker, je crois qu'il a bien connu ses parents d'ailleurs. C'est l'indétrônable Tonton Chris qui nous fait la surprise d'une arrivée surprise. Tonton Chris, comment allez-vous? Êtes-vous là? Nous entendez-nous?
Ah, il a perdu ses lunettes.
Non. Ah, mince, Tonton Chris est reparti. Quelle drôle de situation.
J'espère. Il était vexé par ton introduction, je pense.
Oh non, le pauvre. Bon, ben voilà. Mesdames et messieurs, il y avait Tonton Chris dans le channel avec nous, mais il a dû avoir un souci informatique ou être inconsolable ou pleurer peut-être à chaudes larmes encore de...
Il n'est pas encore prêt à en parler, je pense.
C'est possible, c'est possible. On verra plus tard s'il nous fait la surprise de revenir et d'ouvrir et de parler quelques mots. Peut-être qu'il nous fait un retour façon Chris Jericho il y a quelques années, là, quand il revenait pour ne pas dire un mot. Sauf que comme
il veut tourner il, je pense, ton nom.
Ouais, il fait beaucoup d'efforts pour ça. Par contre, la WWE n'attend pas le retour de Tonton Chris et on continue les affaires. Alors, tu l'as dit dans notre Discord, hein, tout le planning de la veille a été un peu... Enfin, tout le planning de ce SmackDown avait été un peu modifié. Il y avait par exemple des matchs annoncés justement AJ Styles contre Drew Gulak, hein, je m'étais pas trompé, qui était annoncé.
Il y avait ce match-là, le AJ Styles contre Drew Gulak pour la ceinture et le toast de Sheamus à Jeff Hardy aussi qui était annoncé normalement. Mais donc, on voit que Jeff Hardy a un autre programme. Hein.
Mmh. Ouais. Ben là, on a eu. Donc, pardon, je reprends. On a eu ce soir des matchs pas très prévus et donc un Fatal 4-Way pour le titre entre pour le titre Fatal 4-Way féminin pour le titre de Bayley entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Lacey Evans et Dana Brooke. Une étrange affiche où au commentaire nous avons encore comme toujours Sasha Banks et Bayley qui viennent. Donc là, on a des alliés, hein, des associations sur le ring, ce qui cause un peu la confusion. Nikki Cross tente à un moment donné un roll-up sur Alexa Bliss. Alexa Bliss s'éloigne et est visiblement surprise. Mais voilà, Nikki lui dit « Je t'aime, I love you », mais voilà, ce titre, ça va plus loin que ça. Donc elle comprend Alexa Bliss, elle s'affronte un peu l'une l'autre de manière digne, voilà, légale. Dana Brooke à un moment donné prend une phase de domination et fait même un Swanton Bomb sur Lacey Evans, mais elle réussira pas à passer le tombé. Alexa Bliss domine et tente son Twisted Bliss sur Dana Brooke, mais Dana Brooke lève les genoux, et ça, quand on lève les genoux, ça fait toujours très très mal.
Ah, ça fait mal, hein.
Ouais. Et Lacey Evans s'énerve, d'ailleurs Bayley le dit, n'oubliez pas que Lacey Evans est toujours là à un moment donné. Lacey Evans remonte sur le ring, elle s'énerve, elle met son Woman Rights dans la tronche de Dana Brooke. Par contre, elle ne voit pas Nikki Cross qui lui porte un roll-up et 1, 2, 3. Bayley affrontera Nikki Cross à Extreme Rules, qui est annoncé comme un horror show, c'est ça?
Oui, ils aiment bien mettre des sous-titres maintenant au pay-per-view.
Et voilà, et donc le horror show, est-ce que ça correspond à ton sentiment pour ce Bayley versus Nikki Cross, qui a célébré avec Alexa Bliss, elles sont toujours copines. Rassurez-vous, messieurs, dames, si ça vous inquiétait, cette question.
Non, mais là, pour le coup, avec Nikki Cross, on en parlait la semaine dernière, finalement, c'est la seule fille de SmackDown, hormis Sasha et Bayley, qui bénéficie d'un vrai belle mise en exposition, je vais y arriver, et qui a un bon push depuis quelques semaines, même quelques mois. Donc je trouve que c'est un bon choix pour affronter Bayley de choisir Nikki Cross. Après, le Fatal 4-Way était sympathique sans plus. Quelque part, c'est bien finalement que les filles puissent catcher un peu de temps en temps. Ça nous change de juste les voir blablater au micro et ou lors de s'asseoir sur l'arrière d'une voiture en train de pleurer sur leur sort. Pour passer 4 loges, j'en sais rien. C'était peut-être les 4 seuls qui étaient ce soir-là, qui du coup ont enregistré le match. Mais par contre, ouais, Nikki Cross, bon choix, je pense. Même si on se doute à chaque fois, mais finalement, est-ce que ça va arriver un jour? On pense en tout cas que la vraie personne, la vraie rivalité de Bayley, ça sera contre Sasha. Mais vu que Sasha, elle, est partie vers Asuka, bah, je trouve que c'est un bon second choix d'avoir pris notre amie Nikki Cross. Et du coup, on se retrouve avec deux matchs sympas en prévision pour Horror Show Extreme Rules. Ouais. Moi, ça c'est une opposition qui me convient là. Pour le coup, ça, voilà, c'est le thème de la soirée. Je pense que c'est un bon choix.
Je suis d'accord avec toi. J'ai vu déjà un peu surpris par ce Fatal 4-Way. J'ai pas trop compris au début quand il y a eu les entrées si on partait sur un tag team match. Et des quatre, ça me paraissait la plus légitime. Parce qu'on a déjà eu pas mal de FUD pour certaines. Elle est assez nouvelle. J'allais dire, elle est toujours populaire. C'est impossible à dire hein, quand il n'y a pas de public. Mais je trouve qu'elle marche bien, Nikki Cross. Et c'est un bon title shot, c'est mérité. Comme tu dis, peut-être pas forcément beaucoup de chance de l'imaginer gagner de suite là, dans un match. Mais après, on ne sait pas. Hein, là.
Pourquoi pas plus,
Extreme Rules, nous, je pense qu'on va partir sur un pay-per-view très cinématographique là aussi. Hein. Il y a moyen qu'il y ait plein de stipules et bah, d'ailleurs, il y a intérêt. Enfin, c'est...
Bon, on le verra plus tard. Je pense qu'il y a un match déjà. C'est clair qu'il y a une stipulation qui, enfin, que ça sera cinématographique.
Ouais, parce que c'était cinématique. C'était il y a un an ou deux là qu'on avait eu un Extreme Rules avec, je sais plus, une seule stipulation un peu extrême sur.
Ah ouais,
sur...
c'était nul.
Sur toute la carte. Ouais, donc là, ne vous faites pas ce coup-là, hein, la WWE. Là, vous avez l'occasion, lâchez-vous en plus. Peut-être, on en est très loin, mais on ne sait jamais. Avec un peu de chance, ça sera peut-être le dernier pay-per-view sans public, confiné. Enfin, ouais, à voir.
C'est mal barré la Floride, a priori. C'est en train de reconfiner chez eux.
Ah ouais, bon, ben.
Mince, j'ai lu la Floride et Texas, ça repart à la hausse les cas, donc du coup, ils reconfinent partiellement. Donc, c'est pas joyeux, joyeux comme info.
C'est pas joué comme info. Mais bon, en tout cas, Extreme Rules, c'est le moment ou jamais. Quoi. Foutez-nous des maisons, des trucs qui se cassent, et du décor, et des bidules, voilà. Et des ballons gonflables.
Voilà.
Allez, on continue avec de plus en plus de monde sur le ring. Là, elles étaient en Fatal Four Way. Maintenant, on part sur un 4 contre 4 dans la division Tag Team. Donc, nous avons le New Day avec les Lucha House Party qui affrontent les wrestling purists, hein, Cesaro et Nakamura, contre le Miz et Morrison. Donc au début, Big E commence fort en faisant un gros big splash sur le coin du ring au Miz. On a ensuite un échange plutôt sympathique entre Cesaro et les Luchadors, ça vole dans tous les sens. Kofi Kingston, pendant quelques temps, encaisse un peu son rôle de face en péril, il prend dans tous les sens Nakamura, Miz, Morrison, qui le kick un peu dans tous les sens. Les Luchadors finissent par revenir en homme légal. Grand Metalik fait une sunset bomb sur John Morrison. Lince Dorado, un shooting star. Il y a une espèce de fight chaotique pendant ce temps dehors. Alors les New Day et les artistes collectifs, ou je ne sais pas trop comment ils s'appellent, finissent par partir en se tapant à l'extérieur. Et au final, Lince Dorado envoie John Morrison dehors par une espèce de Hurricane Rana énorme. Et Grand Metalik fait une descente du coude sur le Miz. Et c'est parti. 1, 2, 3. Victoire des gentils. Le New Day revient. Coucou. Et ils ont gagné. Ils sont contents. Est-ce que tu es content, toi aussi, papy, de ce moment?
Oui, alors je suis content. Je suis même très content. Je pense que cette fois-ci, nous avons enfin Tonton. Tonton, est-ce que tu nous entends?
Ah, mon son ne va pas être terrible. Je vous vois tout de suite. Salut, Rix. C'est qui toi qui est là? C'est papy.
Et voilà.
Yeah, papy, salut les gars.
Salut.
On est en train de commenter mon merveilleux du show bleu le soir de la retraite de l'Undertaker. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je passe là.
En tout cas, j'étais content de ce tag team. Ça prouve qu'il y a une vision tag team qui est vivante du côté du show. Et ça fait plaisir.
Oui.
C'était du bon. J'ai trouvé pas mal de passages qui étaient vraiment sympas, et notamment du côté de la Lucha. Bon, ils botchent un peu de temps en temps parce que ça va tellement vite quand ils font leur prise. Mais le reste, c'est rendu plaisir, quoi. Ils ont vraiment, ils ont été spectaculaires dans le bon sens du terme. J'ai trouvé nos amis latinos, on va dire plutôt. Et puis voilà. Donc, en plus, ils gagnent contre Morrison, donc ça les laisse assez forts. Donc, bonne surprise. On a quatre bonnes équipes, et donc c'est d'autant plus sympa du coup de plus avoir nos amis américains. Je sais plus quoi là les mecs qui est Fort Gortenson là. Allez hop, petite poubelle, on est content, on a quatre vraies équipes maintenant, on les laisse dans le catch, dans le ring, et on est très content. Voilà pour mon avis.
Oui, c'est un peu l'impression qu'il y a, c'est on a oublié les Forgotten Sons, par contre on s'est dit tiens, mais en fait, on en avait une équipe pas mal là dans les cartons, les Lucha, ils sont bookés vraiment forts là, j'ai bien aimé tous leurs échanges, tant mieux, enfin pour eux. Et quatre équipes légitimes, quatre équipes en place. On sait qu'ils sont les champions, mais en fait, on pourrait presque en douter. Là, tout le monde a l'air de se tenir vraiment dans un mouchoir de poche. Donc, plutôt belle performance. John Morrison, je trouve toujours qu'il est pas mal là, surtout dans ses encaissements. Là, quand il prend des sunsets, des machins, des trucs dans tous les sens, il n'hésite pas à virevolter. Donc, c'était plaisant. Chris, on imagine que ça t'a fait plaisir, toi aussi.
De la vie, de la testostérone, de la bagarre. J'aime bien quand il y a le bordel tout autour du ring, que ça se tabasse sur la rampe, ça se tabasse autour du ring, qu'il y a du monde qui tape dans les mains autour. Il y avait de l'ambiance dans ce SmackDown, je ne sais pas si vous en avez parlé un peu au début, mais j'ai trouvé que ça m'a fait du bien en fait. Ça fait longtemps que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas autant d'ambiance, alors lié avec l'histoire de la retraite, le tribute to the taker, mais du coup ce match tag team, il était bien bien cool. Et voilà, la Tag Team Division du show bleu là, m'a fait plaisir là, ce vendredi soir. Là. Donc c'était cool, un bon match. Je suis bien content que Cesaro et Nakamura soient les number one contenders. Et gros blaze, gros bon moment de catch entre les cordes comme il faut. Quoi. Avec Alice Dorado aussi qui a une shape, wow. Grain métallique, bon lui, je pense qu'il aime bien les burritos, ses tacos et autres enchiladas. Mais Lance Dorado, regardez bien cet homme est dans une forme éblouissante. J'aime les hommes masqués.
Forme éblouissante comme Tonton Chris, visiblement.
Oui.
Et tu disais number one contender, c'est officiel ça? On a un match New Day contre
César. Ouais, pour moi c'est Papy, il va te confirmer je crois. Hein, mais...
Moi je ne l'ai pas entendu que c'est officialisé, par contre, je ne sais pas. Moi je pensais plutôt que du coup on allait avoir un Cesaro Nakamura versus les Lucha House Party pour justement la place de number one contender, tu vois, vu le résultat du match. Mais peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas du tout.
D'accord, bah, écoutez, moi je suis dans le doute là, le doute m'habite tout à coup, parce que pour moi c'était quasi clair que pour Extreme Rules, on allait avoir un César Nakamura versus New Day, et why not.
Ouais, on va checker l'info, alors, why not, mais peut-être wait and see pour le moment. En tout cas, il y en a un, tu vois, tu nous disais que t'aimais bien l'ambiance, t'aimais bien qu'il y ait beaucoup de monde, il y en a un qui est un peu tout seul ensuite sur le ring. C'est Braun Strowman, le champion quand même, le champion de la division, l'Universal Champion. Braun Strowman débarque avec son désormais Strowman Express, donc son entrée avec un espèce de train qui explose le titantron. Il a pris le micro, il nous regarde et il nous explique sa première rencontre avec Bray Wyatt. Alors c'est une anecdote assez étonnante, hein, on n'a pas tous ce genre de première fois. Mais il avait très peur, il nous dit c'est pas la peur d'un petit enfant, c'est vraiment la peur que peut vivre un adulte, la peur qui nous terrifie, qui nous prend dans les tripes. Et voilà, il était donc au bord des marécages, des swamps, avec Bray Wyatt qui avait sa lanterne dans la nuit, et puis une énorme masse qui sort de l'eau, un serpent qui arrive, Bray Wyatt qui dit à Braun, non, c'est un ami, Braun Strowman qui est terrorisé, et le serpent qui s'est mis à mordre Bray Wyatt, à le mordre encore et encore, et ça ne faisait pas de sang, il n'y avait pas de venin, Bray Wyatt était en train de rire aux éclats, donc c'est là qu'il a compris, Braun, que Bray Wyatt n'était en fait que le diable en personne, le devil himself, qui était lui-même le serpent. Tu m'étonnes, une anecdote comme ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ça fait peur, et à ce moment-là, Braun s'est mis tout simplement à faire le travail du diable, devil's work, et il commence à avoir, au fur et à mesure de cette prestation micro, Braun, une voix de plus en plus grave. Il nous dit j'ai aimé faire ça, j'ai pris du plaisir, et au fond de moi, j'ai encore un peu de plaisir à faire ce travail du diable. Alors il a enfermé cette partie au fond de lui, il est passé à autre chose, mais là, ce qu'il demande à Bray Wyatt, ce qu'il propose, c'est de revenir au marécage, de revenir dans cette maison putride et ignoble de Bray Wyatt, pour le détruire là-bas, pour détruire le diable, pour le jeter aux alligators. Il est prêt à faire de cet endroit la destruction, le lieu de la fin de Bray Wyatt. Voilà, let's go home, il lui dit. On entend les rires de Bray Wyatt qui se superposent aux rires de Braun Strowman aussi. Donc on dirait que cet homme-là commence à avoir quelques problèmes dans la tête. Là. Tiens, tonton Chris, qu'est-ce que tu en as pensé? Il t'a convaincu ce Braun Strowman qui te parle les yeux dans les yeux avec le micro dans ta télé, dans ton ordinateur?
Non, ça fait peur, mais ça fait... Braun Strowman, il fait une super longue promo là, non? Ou c'est moi ou je l'avais jamais vu faire une promo aussi longue, je crois.
Ouais.
Enfin, de mémoire, là, franchement, ça m'a épaté, quoi. Je me suis dit, la vache, comment il tient le micro, le Strowman, ce soir, là? Ah, franchement, j'étais plutôt agréablement surpris, en fait. Parce que, pour le coup, voilà, comme il a pas beaucoup le micro, etc., quand il l'a comme ça, qu'il le tient dans une rivalité que moi, qui me plaît plutôt, que je trouve. Je crois que c'était la semaine dernière avec le papy, ou avec vous deux, déjà, je sais plus, où j'avais dit que moi j'aimais bien cette progression de Wyatt là, qui est passé de Bray Wyatt Fire Five on the House à Bray Wyatt Gourou du Bayou et puis qui va arriver à The Fiend, tout ça. Et je trouve ça, ça m'a plutôt bien plu, quoi. Son vieux rire là, quand il a fini sa promo et puis après avec l'écho du rire de Wyatt au loin, j'ai trouvé que c'était bien foutu.
Papy, pareil, T'as aimé?
Pareil, c'était effectivement c'était une longue promo, j'ai envie de dire, à la Bray Wyatt, en fait, finalement, qui nous a fait notre ami Strowman. Et elle était plutôt bien tenue et ça donne. Ça donne beaucoup de consistance à cette histoire de cette rivalité entre les deux bonhommes là. Moi je me demande est-ce que on n'est pas en train de d'avoir un Braun Strowman qui a peut-être basculé petit à petit vers son ancienne personnalité à qui il avait essayé de combattre en fait tout au long de la rivalité et qui finira par céder en fait. C'est intéressant ça et du coup bah pour le coup, on en parlait pour Extreme Rules. Là, je vois pas comment le match pourra être autrement que autour d'un marais avec un crocodile. Ça va se finir comme ça. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas notre ami Ivar en train de jouer au mini-golf à côté des crocodiles, mais un vrai truc de crado, quoi. Il nous faut du cradingue.
Il nous faut des t-shirts sales et tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé cette performance. Alors, peut-être un petit peu sceptique sur l'anecdote, le choix de l'histoire racontée, là, cette sorte de serpent qui mord Bray Wyatt, c'est un peu bizarre, mais tout la suite sur voilà le fait qu'il a été convaincu par le gourou au final, hein, c'est ça, c'est bien de ça dont il est question, qu'il s'est mis à faire son travail, qu'il s'est mis à y prendre plaisir et qu'il est sorti de ça et que là il veut aller affronter ses propres démons. Très convaincant, j'ai trouvé Braun Strowman et effectivement, je pense qu'on peut partir vers un match bien écrit et on est plutôt confiant puisqu'on a eu quand même la Firefly Funhouse qui était pas mal. Donc là, je suis très attentif et j'attends beaucoup de cette future suite de rivalité là. Et nous arrivons au main event là-dessus. Hein.
Main event.
Mais oui, déjà.
Déjà, ben voilà, on a quasiment eu une heure de show. Occupé par le moment dont on va reparler maintenant que Chris est là, la fin de carrière de l'Undertaker. Mais avant ça, donc. Laver l'honneur justement de l'Undertaker, Jeff Hardy contre King Corbin et ce vilain King Corbin qui ne recule derrière aucun coup de vis, hein. À peine la cloche sonne, il se précipite sur Jeff Hardy, il lui donne une closest line, il domine un peu son vétéran, son aîné. À l'extérieur du ring, Jeff Hardy réussit à renverser une sorte de projection, à faire profit de sa propre force pour envoyer King Corbin à travers la table des commentateurs. On remonte sur le ring, Jeff Hardy tente un Whisper in the Wind qui est évité, Corbin envoie Jeff Hardy contre le poteau, bim, et il en profite pour poser au milieu du ring en imitant l'Undertaker, là un genou à terre et la main levée, ça c'est pas du tout respectueux. Et du coup on part à la pub, et au retour de la pub en fait, tout le roster des gentils est arrivé autour du ring, ça faisait plaisir à tonton Chris, une sorte de lumberjack match, mais ils ont pas vraiment joué leur rôle, ils étaient juste là pour soutenir Jeff Hardy, donc on a retrouvé Matt Riddle, Drew Gulak, les New Day qui étaient de retour, les Lucha House Party qui étaient de retour, Braun Strowman revenu, et même chez les filles, Nikki Cross et Alexa Bliss, Dana Brooke et Lacey Evans, bref, beaucoup de monde pour encourager Jeff et huer Corbin, notamment Dana Brooke qui lui a envoyé quelques You Suck Corbin, tout ça. Et Corbin domine quand même, comme toujours, lentement, un peu de soumission, on tire un petit peu sur les bras, sur la tête, mais Jeff Hardy finit par se réveiller, il se remet dans Deep Six, un Near Fall. À l'extérieur du ring, Baron Corbin se précipite à un moment donné, Jeff Hardy l'évite, boum, les escaliers dans l'épaule, ça fait très mal. Et ça fait tellement mal que Baron Corbin est mis sur le ring, il reste étendu, Jeff Hardy grimpe sur le turnbuckle, Swanton Bomb, 1, 2, 3, Jeff Hardy a gagné, il lave l'honneur de son mentor l'Undertaker, le New Day est à fond, il secoue, il danse dans tous les sens, Corbin attaque Jeff Hardy par derrière. Ça, c'est pas bien. Et il est pas très malin de faire ça devant tout le monde. Effectivement, Biggie débarque. Il place un big ending à Baron Corbin. Il relève Jeff Hardy. Et là, ils se mettent à faire signe à Braun Strowman. Ils disent « Allez, viens, Braun, allez, viens, viens t'amuser un petit peu. » Braun Strowman, il se fait pas prier. Il arrive Running Power Slam, sur King Corbin. Et puis tout d'un coup, on montre Matt Riddle du doigt. Matt Riddle dit « Ouais, ah ouais, allez, moi aussi. » Il monte sur le ring, il enlève ses chaussures. Il fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais pareil, un saut sur le turnbuckle, une espèce de Swanton Bomb. Et voilà, tous les gentils célèbrent. Et on rend un dernier hommage en regardant sur le Titantron le portrait de l'Undertaker. Émotion. Et King Corbin a pris cher dans sa gueule. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement ce qu'on demande à un main event ? Qu'est-ce que t'en as pensé, papy ?
Oui, bah c'est ça, c'est exactement ce que tu le dis bien, c'était le feel-good moment du main event avec le gros méchant que personne ne peut piffrer qui s'en prend plein la tronche. En plus, il se prend une avalanche de finishers par un peu tout le monde, tous les gentils, tout le monde est heureux, on finit, on fait un bel hommage. Bel hommage, pas tant que ça. Alors, je vais juste mettre un petit truc qui, moi, m'a chagriné un poil. C'est que j'ai trouvé qu'ils ne sont pas allés assez loin dans l'hommage au Taker, en fait. J'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas, je ne sais pas, moi, Corbin qui tente un chokeslam, ou Hardy qui, mine de rien, est assez agile, qui tente le old school à marcher sur les cordes. Je pense qu'il aurait pu. Enfin, voilà, j'aurais bien aimé qu'il fasse 2-3 références au Taker durant le match, hormis sa pose avec sa main levée. Voilà, j'ai trouvé qu'ils sont pas été assez à fond là-dedans, en fait. C'était limite trop sage, en fait, à mon goût. Mais bon, après, voilà, ça faisait le taf. Hein, comme tu dis, hein, c'est feel good moment, ça se finit, tout le monde est content, on sert tout dans les bras avec modération, parce qu'il y a quand même un peu de coronavirus qui traîne. Mais voilà, tout le monde est content, c'est beau, la vie, les oiseaux chantent, les enfants sont heureux.
Et les enfants, et les vieux, sont-ils heureux, tonton Chris, les vieux ?
Ah bah moi, je vais mettre un petit bémol, en fait, à ce main event, quoi. Parce que j'étais un peu déçu, un spécial SmackDown, tribute to Undertaker, et finir avec un main event, Jeff Hardy, Tim Corbin, même si il y a le public, il y a un espèce de faux lumberjack match, j'étais un peu déçu, quoi. Je rejoins un peu Papy sur le fait aussi que voilà, ça n'a pas été très bien exploité, justement, cette fin et tout. Et effectivement, il y a eu des moments sympas dans le match. Effectivement, King Corbin a rempli totalement son rôle de victime expiatoire d'avoir dit des méchancetés sur le papy retraité. Donc je suis partagé, c'est-à-dire que j'ai trouvé ce main event pas mal, mais j'aurais certainement aimé autre chose pour un weekly est un peu particulier quand même.
Je comprends. Après, peut-être que ce que disait Papy sur notre Discord, et n'hésitez pas à nous rejoindre, est assez vrai. Ils nous avaient prévu beaucoup de choses pour ce SmackDown qu'ils ont un peu annulé et repoussé. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi en interne le secret gardé sur l'annonce de la retraite de l'Undertaker ? Est-ce qu'ils ont eu le temps de vraiment préparer beaucoup de choses ? Moi, c'est vrai qu'en soi, j'ai trouvé qu'on en a... ils auraient pu rendre hommage plus... en live et un petit peu moins. Enfin, je trouve qu'on n'était pas obligé de se retaper le Boneyard match.
Ouais, déjà. Ouais.
Ils l'ont pas fait à l'arrache, du coup. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, ils se sont dit, allez, les gars, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour rendre hommage au Taker ? Et ils ont fait 2-3 segments et un match en disant, voilà, qui c'est le pire. Moi, je veux bien faire. Corbin aurait dit, moi, je veux bien faire le méchant. Ça ne m'étonnerait pas de lui parce que, mine de rien, il doit bien respecter aussi l'Undertaker. C'est peut-être c'est un truc, comme tu dis, il a préparé un peu à l'arrache et du coup, ceux qui étaient là étaient là et on a fait avec les moyens du bord, quoi.
Par exemple, on a, je pense qu'on on va pas, enfin, c'est pas possible que ça soit fini si vite, en fait. Je pense qu'on aura forcément AJ Styles notamment qui rebondira là-dessus dans les semaines à venir. Peut-être des catcheurs qui vont commencer à faire des old school et des prises un peu plus hommage, mais c'est un peu la vitesse du moment qui les a peut-être. Poussé à ça, je ne sais pas. Il y avait pas j'ai pas remarqué qu'ils aient des t-shirts de l'Undertaker, par exemple, si ma mémoire est bonne.
Non, j'ai pas souvenir. Ils étaient avec des beaux masques SmackDown en mode coronavirus, mais à part ça, j'ai pas vu de choses spéciales.
Tonton Chris, top flop note.
Eh ben moi, mon flop, c'est ce que j'ai dit pour le main event. En fait, c'est l'affiche Corbin de Jeff Hardy dans un tribute to the Undertaker. Pour moi, ça a été une petite déception de terminer un show pareil avec un match comme ça. Alors que quand je vois la qualité du match tag team, même les filles, j'ai bien aimé. Ça a été assez rapide, les filles, en fait. Donc, vu la qualité du match tag team, moi, j'ai été un petit goût pas cool dans la bouche à la fin du main event, quoi. Et puis, mon top, je le donne. Non, je vais pas le donner à l'Undertaker. Non, mon top, je vais le donner au match tag team. Voilà. En termes de catch pur, voilà, le 4 contre 4 m'a largement ravi. Et ma note, je vais mettre. Alors là, je vais mettre ma meilleure note à SmackDown depuis 6 mois. Et je vais lui mettre un. Oh la vache, allez, je suis d'humeur joyeuse et tout. Je suis content d'être avec vous, les amis. Je vais lui mettre un 4.
Wow!
Je suis chaud là, je suis chaud.
Papy, t'es chaud ?
Ah, je suis chaud, alors je serais pas aussi chaud que tonton, mais là ça me fait quelque chose d'entendre une note pareille qui arrive dans
moi aussi,
un temps de confiné. Sinon, le top, alors je commençais par le flop. Le flop, je suis un peu comme tonton en fait, c'est le main event, mais moi c'est vraiment juste la partie. c'est pas tant l'opposition, parce que comme je disais, vu le roster de SmackDown, et je voyais pas tant de... Voilà, ça aurait peut-être pu être AJ Styles à la place de Corbin, mais je sais pas plus mal que ce soit Corbin, le vrai tête à claque qui prend le feature tout le monde.
D'ailleurs, voilà, donc... où était AJ Styles?
Pas dispo, peut-être. On ne sait pas.
Pas dispo, ouais, champion intercontinental, hyper apprécié par le Taker. Voilà, grosse passation entre lui et AJ Styles pour le Boneyard match. Et il n'est pas là, quoi. Il n'est pas là le soir de ça. Ça m'a vraiment surpris, quoi.
Bah, c'est pour ça que je pense que c'est un truc qu'ils ont enregistré à l'arrache en disant. Bah tiens, si ça se trouve, les segments du prochain SmackDown sont déjà enregistrés. Hein, les Gulak et Jay Styles, le segment, l'hommage de Sheamus à Jeff Hardy sont déjà tous enregistrés. Et là, ils se sont revus en cours de semaine en disant, bah tiens, on va refaire un match. Et puis ceux qui étaient dispo sont venus, quoi. Moi, je le vois comme ça, parce qu'effectivement, c'est tout le temps qu'il n'y a pas de Bryan, c'est tout le temps qu'il n'y a pas de Jay Styles. Il manquait quand même quelques têtes d'affiche hein, de Sheamus dans ce show. Donc ouais, donc l'opposition ça va pas déranger. Par contre, ça m'embête vraiment qu'ils aient pas réussi à caser deux trois références au Taker dans le match avec des mouvements hommage. Enfin surtout, ouais, je pense que vu les différences de gabarit, Corbin aurait pu au moins sortir le choke slam ou alors une power bomb ou enfin des segments assez puissants.
Last ride, voilà. Je comprends pas. Ouais, voilà, pareil.
Il peut très bien le faire sur Hardy. Et Cardi n'est pas tenté des choses un peu plus voltigeurs que savait faire le Taker aussi. Enfin voilà, pour moi, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, ils ont peut-être été vraiment trop à la rage, j'en sais rien. Mon top, alors j'ai beaucoup aimé aussi le catch des matchs par équipe et du four-way féminin. Mais moi, je ne suis pas comme tonton. Je ne vais pas me priver de plaisir de donner un dernier top à l'Undertaker. Et donc, du coup, c'est pour lui. Peut-être la dernière occasion de lui en donner un. Donc, je lui donne mon top pour ce qu'il a apporté, du coup. Et on s'en est rendu compte au fil du show qu'il avait vraiment apporté un peu à tout le monde, quoi. Et ma note, allez, on va être un peu chaud aussi. Je vais pas être au point de donner un 4, mais je vais donner un bon 3 pour ce show parce que... Finalement, les tag teams ont bien évolué, les filles ça a bien évolué, le Taker, l'hommage a été rendu, le Strowman Wyatt c'était bon aussi. En fait, c'était pour ça que j'ai donné le même flop que Tonton, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand chose à jeter dans ce SmackDown. Et tiens, d'ailleurs, je monte ma note à 3,25. Allez, je suis chaud.
Eh ben, moi, je vais faire la moitié. Je vais donner ma note à 3,5. Moi, je vais donner mon flop. Je comprends ce que vous avez dit sur le segment final. Moi, c'est plutôt au début. Je vais donner mon flop au choix de la diffusion intégrale du Boneyard Match et surtout sur cette diffusion très bizarre où on a eu un. Où en fait, ils diffusaient le match et puis tout d'un coup, on voyait Michael Cole et Corey Graves nous dire attendez, hop, on fait un petit interview tribute to the Undertaker et puis on revenait à ce Boneyard Match. C'était un choix assez bizarre.
Ouais.
De conception, voilà.
C'est bon. Les pubs, non?
Ouais, c'est les pubs.
Ah oui, c'est les pubs. Bah, c'est sûr et certain, même.
Oui, oui. Ouais, c'est les passages publicitaires qui ont fait des coupures un peu bizarres. Et le top, moi, je suis comme papy parce que voilà, bah, l'Undertaker m'a pris par la main et m'a amené découvrir le glorieux monde du catch. Donc rien que pour ça, je le remercie. Top pour l'Undertaker et pour cette carrière. Et une petite note de 3,5 parce que oui, on a eu peu de shows sur le reste du temps, mais... à la fois le petit push de Nikki Cross, le 4 contre 4 et la prestation de Strowman au micro m'ont plutôt convaincu. Donc c'était un bon show, j'ai trouvé. Peut-être pas à la hauteur de l'événement, mais en même temps, voilà, y a un côté surprise un petit peu bizarre qui fait qu'à mon avis, on va aussi étaler ça. Ça, j'en suis persuadé. On aura des références à l'Undertaker, sûrement dans les matchs d'AJ Styles. Ouais, donc je suis pas étonné. Mais c'était bien. Et puis bah, voilà, maintenant, on va pouvoir... rendre un peu hommage à cette légende du business. On l'a fait en intro. Et maintenant, on va laisser parler notre ami Tonton. Donc, ce que j'avais demandé à Papy en début de show, Tonton, tu l'écouteras quand tu reprendras la review, c'était tout simplement quels sont tes souvenirs de fans. Est-ce que tu te souviens du novembre 90 au Survivor Series? Quels sont tes meilleurs matchs de l'Undertaker? Voilà.
Oh bah ouais, bah l'Undertaker il est même dans ma maison, tu vois quoi, il est présent, il est avec moi. Voilà, j'ai une petite effigie de l'Undertaker qui trône au milieu de mon salon. Et l'Undertaker pour moi c'est un truc de fou parce que c'est 30 ans qui viennent de s'écouler avec ce gars-là. J'étais là, ouais, j'étais devant ma télé, je sais même l'endroit où j'étais exactement le jour où je l'ai vu pour la toute première fois, donc au fameux Survivor Series de novembre 90. avec tout le décorum qu'il y avait eu autour pour son arrivée et tout ça, quoi. Le match avec Dustin Rhodes, Rest in Peace, et il y avait, je crois qu'il y avait les frangins, enfin, non pas les frangins, il y avait Ned Hart et Bret Hart. Et c'était un truc de fou, hein. Et derrière, ce qui a suivi, en fait, derrière, ça a été quand même assez incroyable. Il y a eu les matchs face à Yokozuna, il y avait la personnalité de Paul Bearer aussi qui était super importante dans le lancement du Taker, quoi.
C'est vrai.
C'était un personnage mystique, voilà, avec la fameuse urne, tout ça, c'était quelque chose d'incroyable. Pour moi, qui ai vécu l'arrivée de Hogan avec la fin d'André et tout ça, tout d'un coup, en 1990, voilà, il y avait ce personnage qui arrivait au milieu de mecs que j'adorais, quoi, comme le Macho Man, comme Tatanka. Il y avait plusieurs catcheurs comme ça que je kiffais super grave à l'époque. Et tout d'un coup, il y a ce mec, c'est un ovni, quoi. Et il y a eu... Après, il y a eu un espèce de passage un peu délicat parce qu'il y a eu la feud Undertaker versus le faux Undertaker. Ouais. Et puis là, derrière, la WCW a commencé à grimper, à gramper, et passer sur Canal en France. Donc du coup, pour suivre les shows de la WWF, il fallait se faire envoyer des cassettes, etc. Donc c'était compliqué, quoi, de suivre la WWF à l'époque. Et puis après, moi, dans les souvenirs, on va dire, sur les années 90, vraiment, ça a été vraiment le match de 98 face à Mick Foley, quoi. Hein, voilà, le King of the Ring, le Hell in a Cell match, quoi, qui a été, voilà, le premier match pour moi vraiment d'anthologie d'un Hell in a
Cell. Quelle violence!
Une violence ultime, un match hardcore incroyable. Et là, le Taker, après ça, il a pris une dimension, voilà, c'était devenu vraiment l'emblème de l'Attitude Era du côté de la WWF. C'était le concurrent absolu de la WCW. Et puis après, je vais pas vous dérouler tout ce qui s'est passé derrière parce que vous le connaissez aussi bien que moi, quoi. Mais c'est vrai que avoir vu en fait ce personnage en 1990 arriver, et là aujourd'hui on parle ensemble à Catch Up en 2020, ce mec il a 55 piges, 23 victoires à WrestleMania ou 24, je sais plus, 24-2, c'est ça son score final à WrestleMania. Multiple champion du monde, multi ceinturé, multi tout ce que vous voulez, de toute façon, quoi, vainqueur du Rumble, qui a changé de sa gimmick au fur et à mesure de sa carrière, voilà, enfin un gars. Moi, je vous dis, là, j'ai eu une déception quand même par rapport à tout ça. C'est, je crois que je vous l'avais dit il y a pas très longtemps, et moi j'espérais qu'il allait justement annoncer sa retraite et finir sa carrière au Survivor Series 2020. Voilà, pour boucler la boucle de manière totale, fatale.
Faire les trompes.
Et donc, du coup, je vous avoue que j'ai suivi du coup les The Last Ride, le documentaire, mais j'ai vu que les épisodes 1, 2 et 5. J'ai pas vu les épisodes 3 et 4. Mm-hmm. Donc, quand j'ai regardé l'épisode 5, où il annonce sa retraite, il y a eu un petit goût de « Ah non !» Pourquoi tu vas pas jusqu'en novembre là? On ne demande même pas de catcher jusqu'en novembre là. Juste, tu tiens juste un tout petit chou. Pour une fois, j'avais envie de le revoir catcher, alors que je cache pas que ça fait des années que je pense qu'il aurait dû arrêter. Et oui. Du coup, voilà, c'est un petit chou de tristesse par rapport à cette fin. Et puis, je vais finir sur un mot par rapport à The Last Ride. Si vous voulez, The Last Ride, c'est bizarre, mais pour la première fois en 30 ans, ça a brisé le kayfabe auprès de moi. C'est-à-dire que j'avais toute cette aura d'Undertaker, comment il est resté dans le personnage pendant des décennies, comment il a que très très rarement cassé la gimmick. Et là, The Last Ride, ça, c'est vrai que ça a fait effondrer un peu toute une mystique autour de lui. Et finalement, c'est pour ça que j'ai un petit goût amer qu'il finisse pas par un vrai match. Mais je suis quand même, je trouve qu'il a fait les choses proprement, quoi. Que c'est carré, c'est à l'image de ce qu'est Mark Calloway, quoi. Donc Rest in peace à la retraite. Et la retraite à 55 ans, vous en avez rêvé, l'Undertaker l'a fait.
Quel héros.
Mon héros pour toujours.
Est-ce que pour toi, c'est le plus grand, comme l'a dit Ric Flair, le plus grand personnage, la plus grande légende de la WWE là,
Pour moi, ouais. Parce qu'on est au 21e siècle. Il y a, on va dire, 50 ans, 60 ans d'industrie de catch derrière nous qui nous contemplent, les amis. Le gars est là, voilà, un pilier de la WWE, qui est le big dog du catch mondial, voilà. Et pour moi, il sera plus haut, il sera plus haut que Hogan, il sera plus haut que Shawn Michaels, il sera plus haut que The Rock, dans le business en lui-même, hein, vraiment. Je parle pas en termes d'influence. Il y a souvent, entre l'influence et ce qu'on est dans le business, Mais pour moi, c'est le plus grand de tous les temps. Ouais, bah ouais, franchement, il y a. Ah ouais, je vois pas qui peut contester. Finalement, c'est. Quand on voit d'ailleurs comment ça se termine, là, tu vois, pour lui, on se dit, ouais, le gars, tu vois les quelques images qu'ils ont passées à SmackDown. Il n'y en avait pas assez à mon goût d'ailleurs. Le Boneyard match, c'était du gâchis à SmackDown.
Ouais, presque. Ouais.
Il y avait moyen de nous faire des petites vidéos de différents matchs, voilà, revoir quelques trucs incroyables, quoi, les matchs contre Shawn Michaels. Ouais, aurait tellement des matchs, les gars, là, j'en aurais 10, 15, 20 à disserter. Je vais vous laisser un peu la parole.
Ouais, on remarque d'ailleurs dans le clip du début qu'on n'a pas du tout d'image de la fin de la streak, qui était quand même un grand moment. Mais ouais. Je crois que nous avons.
El Patron!
El Patron, nous avons voilà. Un autre.
Voilà.
Allez, qui a démagnétisé mon badge là, d'accès au studio là?
Ouais, on a fait des changements de travaux de porte depuis la dernière baston de Money in the Bank en fait.
Bah, j'étais en train de mettre un DVD pour les enfants là pour pouvoir vous rejoindre. Je pense que le Taker comprendrait, hein, lui qui est un jeune papa.
Mm-hmm. Bah, tu leur as mis le The Last Ride, non?
J'aurais mis les 12 travaux d'Astérix, mais on va dire c'est un peu voilà. C'est le Last Ride de cette génération.
Et les similités.
Voilà. Donc IRM est avec nous, El Patron de Catch Up, tout simplement parce que c'est un moment unique. Et ben, on a tous fait notre petit tribute to The Undertaker, on va t'écouter, comme nous tous, qu'est-ce que ce monsieur représente pour toi? Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu l'as vu? Est-ce que c'est le plus grand de l'histoire à tes yeux? Est-ce que c'est une belle retraite? Est-ce que c'est une belle carrière? Dis-nous tout IRM, dis-nous ce que tu en penses, est-ce que tu pleures?
Je sais pas, mais je peux vous partager deux anecdotes intéressantes avec le Taker. Mm-hmm. La première, c'est que la première fois que je suis allé à WrestleMania, c'était à New York, c'était pour le 29. C'était à New York, c'était la première fois que j'allais à WrestleMania, donc il y avait une grosse ambiance, et puis, le voyage avait déjà coûté cher à l'époque, et du coup, j'avais pas forcément des places au premier rang. Mm-hmm. Voilà. C'est un peu plus cher que les NXT Takeover. Et du coup, j'étais vraiment dans les derniers gradins. J'y étais avec madame et honnêtement, on voyait pas grand-chose. On n'a pas vu grand-chose des catcheurs à ce niveau-là parce que c'est dans le grand stade près de New York. C'est tellement grand que franchement, quand tu es tout en haut, tu vois pas grand-chose. Mais un truc que je peux vous dire, c'est que quand tu as l'entrée du Taker, et que t'as les flammes qui surgissent, et ben mon gars, t'étais réchauffé, quoi. Tu sentais les flammes, toute la pyrotechnie qui vient jusque toi, et là, j'ai été soufflé, et y a pas à chier. C'est bien un truc que tu dois faire une fois dans ta vie en tant que fan de catch, d'assister à l'entrée du Taker. C'est facile de dire ça aujourd'hui, parce que c'est un peu compliqué. Mais, c'était assez incroyable. Pour te dire, le Taker, il réchauffe nos cœurs, mais aussi il te réchauffe le visage quand il fait moins 10 degrés dans la banlieue new-yorkaise à 1h du matin. Autre anecdote, c'est que avec Giscal et Hank de Catch-Up, nous avons assisté à la dernière venue du Taker à WrestleMania.
Oui.
Puisque le Taker n'est pas revenu à WrestleMania, si vous me dites si je suis des bêtises. Alors WrestleMania public, hein. Cet ersatz de WrestleMania qui était le Coromania de cette année. Mais la dernière fois qu'il est venu, qu'il a affronté quelqu'un sur ses terres, dans son jardin à WrestleMania en public, c'était à la Nouvelle-Orléans, face à John Cena. Et même si son match n'a pas duré très longtemps, c'était quand même un sacré spectacle. Donc c'est assez. C'est un peu le Taker. C'est le repère qui reste là. C'est le phare, quoi, hein, du catch, dans le monde du catch, c'est incroyable de dire que ce bonhomme-là, toute la carrière qu'il a eue, donc je sais pas si c'était vraiment un hommage que je lui ai rendu, mais voilà, je voulais penser à ces deux anecdotes, j'ai eu la chance de voir les deux là, et ces deux apparitions, et il y a pas à dire, c'est pas grave si ces matchs durent 2 minutes, l'expérience, l'émotion était toujours au rendez-vous.
Bah, on imagine, hein, c'est aussi pour ça qu'on est... Content que tu sois venu nous parler un petit peu, IRM, c'est que on en parlait, on n'a pas eu la chance. Enfin, je sais pas, Chris, tu l'as vu l'Undertaker en live?
Franchement, à chaque fois que je suis allé au show de la WWE, il était jamais dans la carte. Donc, voilà, j'ai vu des très grands de la WWE, je pense. J'ai eu la chance de voir des très grands, mais malheureusement, j'ai jamais vu live l'Undertaker. J'écoutais religieusement parler El Patron là, parce que je me voyais, je m'imaginais si j'avais été là-bas, quoi, et dans quel état, dans quel état ça aurait pu me mettre un truc pareil, quoi. Mais non, malheureusement, j'ai jamais eu cette chance. Papy?
Ouais, pareil, jamais vu. Et ça fait envie d'écouter IRM. Raconter ces instants magiques avec l'Undertaker.
Ça donne envie.
Bon, bah voilà, il est jamais trop tard, les gars. De toute façon, il n'y a pas de retraite dans le cage. Donc,
non, voilà, ça n'existe pas.
Bon, on est tous d'accord que c'est le moment pour aller à la cérémonie du Hall of Fame, là, sûrement, l'an prochain. On parie sur une place directe.
Obligé. Voilà, s'il a pas un ticket. Si lui, il n'a pas un ticket direct, qui peut en avoir, hein, quoi.
Il a son coup de fil.
Brock Lesnar, peut-être.
Ouais, et encore, ouais, c'est sûr. Très bien. Bah écoutez, les amis, je crois
qu'on
va...
Les matchs, les amis, attendez.
Ah oui, tu veux citer des matchs ?
Vous allez me parler. Sortez-moi un top 3 ou un top 5 là, de matchs, quoi.
Bah moi, les deux matchs que j'ai vus de lui, déjà, sont dans le top 3.
Déjà, ouais, voilà, d'autres listes. Donc c'était quoi les matchs que t'as vus, du coup ?
C'était contre CM Punk et l'autre contre John Cena.
Alors, ouais, CM Punk, donc c'était le 29 alors.
C'est le 29, ouais. C'était contre CM Punk. Ah oui, c'était la même année que Triple H battait Brock Lesnar, c'était honteux. Il n'y avait pas que des grands moments. Mais contre CM Punk et contre John Cena, quoi, qui était tout un. Il y avait tout un sketch, un fil rouge, c'était très drôle, quoi. Et il y avait une telle. Un frémissement dans la foule parce que. Enfin, jusqu'au dernier moment, quoi, ils nous ont teasé le fait qu'il serait pas là, quoi. Et que John Cena était sur la rampe et il repart parce que il se dit merde, il va pas venir, quoi. Il lance son défi et ils ont attendu. Et dans la foule, il y avait un frémissement. Les gens commençaient un peu à abandonner l'idée que le Taker vienne. Ils ont vraiment super bien timé son arrivée. Et quand le gong a résonné, mamma mia, comme on dit, je peux te dire que côté au milieu de tout ça, c'était assez incroyable. Donc voilà, ils sont tous les deux dans mon top 3. Et puis je sais pas pour le troisième, il a fait des grands matchs. Si, un match qui m'avait fait très plaisir. Alors c'est un peu a posteriori, c'est sûrement pas un de ses meilleurs matchs, hein, son match avec Roman Reigns contre Drew McIntyre et Shane O'Mac. Quand tu vois le reportage là, c'était un super match en fait, dans ce que ça représentait pour le Taker. Dans sa tête, il se pardonne à moitié de ce qu'il avait fait, de son match pas terrible contre Roman Reigns, même si moi j'avais trouvé très bien ce match. Donc s'il y avait un top 4, je mettrais celui contre Roman Reigns pour la symbolique. Mais voilà mon top 3.
Réveille-toi, Patty.
Oui, non, mais je faisais ma sieste, là, j'étais bien.
Ah, je sais, je t'entendais ronfler derrière.
J'écoutais vos voix, ça me berçait un petit peu. Non, mais moi, de toute façon, j'ai déjà donné mon top 1 tout à l'heure, c'était Taker contre Shawn Michaels. Alors comme j'ai pas une mémoire énorme, j'ai du mal à me souvenir d'autres matchs, donc je vais tricher. Je vais dire mon deuxième, ça va être Taker contre Shawn Michaels, et mon troisième, c'est Taker contre Shawn Michaels dans Hell in a Cell. Voilà, comme ça, j'ai fait la totale, je suis tranquille et je peux vous passer la main gentiment.
Tonton Chris.
Eh ben moi, ça sera le King of the Ring, donc le Hell in a Cell match à King of the Ring 98. Ça sera le deuxième Undertaker Shawn Michaels. Et je vais choisir le match contre Brock Lesnar pour toute l'émotion totalement hallucinante de ce match, quoi. Voilà. Et je crois que je suis passé par tous les états ce jour-là. Et voilà, un truc mêlé, la déception de le voir perdre cette streak face à Lesnar. Et tout un tas de choses, quoi, mélangées dans ce match, et j'ai trouvé ce scénario incroyable, et je l'avais annoncé sur les cahiers du catch, je crois, une semaine ou deux semaines auparavant, quoi.
Ah, tu lui as porté la poisse, c'est un peu de ta faute.
Je l'ai écrit, j'ai fait un article, un truc assez court, assez condensé, et j'avais fait le fantasy booking du Undertaker versus Brock Lesnar, et j'ai eu raison, voilà, Brock Lesnar a brisé la streak.
Ouais, moi je mets ce match-là, je vais en citer trois sans que ce soit forcément un top, mais oui, ce match-là, le match n'était pas extraordinaire, mais
non, disons que pas extraordinaire, mais...
l'émotion, l'émotion que tout le monde, moi y compris, a ressenti, les têtes des gens dans le public, enfin, longtemps on s'est demandé est-ce qu'il fallait ou non la briser cette streak. Moi j'étais persuadé que non, il fallait pas, et vraiment, ben voilà, ils ont prouvé l'inverse, il fallait en fait, parce que vivre cette émotion de tristesse, de sentir limite qu'un proche parent est défunt ou quelque chose comme ça, enfin, c'est monstrueux, et se dire ils ont réussi à créer ça en nous, petits fans de catch, c'est beau, et puis ça n'a pas été la fin de sa carrière, donc c'était un beau moment. Moi, puisque je suis venu au catch grâce à ce monsieur, je vais citer le premier qui m'a vraiment que j'ai suivi. C'était le match contre Edge à WrestleMania, donc 2008, où à l'époque, voilà, je débutais à regarder ça sur des blogs, des skyblogs, des machins avec des liens YouTube ou Dailymotion, et où je comprenais pas encore du tout les codes de cet univers. J'étais un vrai Marc, je l'avoue, j'étais un vrai Marc, mais voilà, j'étais un vrai Marc de Marc Calaway. Et j'ai tremblé comme tout dans cette rencontre là où en plus il y a je crois deux ref bumps de mémoire avec Kurt Hawkins et Zack Ryder qui avait quand même fait le Kurt Hawkins et Zack Ryder faisaient le main event de WrestleMania, les amis, ils sont venus les Edgehead extraordinaire. Et un troisième match, mais en fait j'ai limite envie de, parce que pour moi c'est vraiment la feud qui m'a lancé dans le catch, j'ai envie de citer la fin de cette feud, c'était le Hell in a Cell de Edge contre l'Undertaker la même année à SummerSlam. Qui, dans mon souvenir, envoyait du bois et qui finit par l'Undertaker qui attire le cadavre de Edge sous le ring avec les flammes qui explosent. Enfin, Edge qui part en enfer et qui ne revient plus pendant 3 mois. Voilà, une grosse feud. Parce qu'on revient de l'enfer au bout de 3 mois en général. Voilà, ouais,
j'adore. C'est des courts séjours.
C'est la clause de 90 jours.
90 jours pour faire ta rédemption.
90, ouais, c'est la fameuse clause de 90 jours qu'ont les catcheurs de la WWE quand ils sont You're fired!
Et par contre, quand t'as enterré comme AJ Styles, c'est une clause d'une semaine. C'est bien, c'est pratique.
Ah ouais, AJ Styles, ouais, alors lui là, c'est vrai, c'est Jésus. En fait, on s'est trompé, c'est pas Seth Rollins le Monday Night Messiah, hein. C'est bien AJ Styles, hein. Lui est incroyable.
Bien, sur ce petit hommage, on est là, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Qu'est-ce que t'en penses, tonton Chris?
Bah ouais, l'Undertaker, on pourrait quasiment un jour faire une émission spéciale catch-up consacrée qu'à lui de toute façon. Hein. Peut-être dans les awards de fin d'année, on fera peut-être un truc spécial, une émission spéciale pour boucler l'année. Qui sait, il aura peut-être fait une petite apparition au Survivor Series en novembre. Allez, je continue à y croire quand même.
On ne sait jamais.
Bien, ben merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, je le répète, à nous donner dans les commentaires. Toutes vos histoires, tous vos avis, toutes vos petites anecdotes aussi touchantes que celle de Yerem quand il était devant le poteau du stade de New York et qu'il a senti les flammes de l'Undertaker.
Je l'ai pas vu, mais je l'ai senti.
Titre de ma sextape.
Moi, il faut que je regarde la date exacte de ce Survivor Series, mais je devais avoir un mois et quelques jours quand l'Undertaker a commencé sa carrière. Donc, c'est un peu toute ma vie là, hein, qui une grande page aussi qui se tourne. Thank you, Taker. La WWE continue évidemment, donc continuez à nous écouter. Là, en plus, je suis écouté par le patron, donc il ne faut pas que je me gourre. Nous avons PodCloud, iTunes, Spotify, la version audio sur la version vidéo, pardon. Voilà que j'ai fait un botch. La version vidéo sur YouTube. Vous pouvez partout vous abonner, nous podcaster, nous télécharger selon les plateformes où vous mettez des cœurs, des likes, des pouces bleus, des tombstones, ce que vous souhaitez. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord pour en parler, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, CatchUpCDC. On sera là, on continue. La WWE part sur une nouvelle page. De nouvelles légendes vont s'écrire sous nos yeux. De nouveaux catcheurs vont entrer dans nos cœurs. On continuera d'être là. Merci à tous les copains. On a été nombreux, ça fait plaisir. Donc Yerem, Chris, Papy, merci à vous. Merci Yerem d'être passé, d'avoir réussi à nous faire un petit coucou pour ces anecdotes.
Ouais, maintenant je vais retourner aux affaires, les affaires importantes.
Voilà, tu pourras raconter tout ça à tes enfants un jour, quand ils seront en âge de comprendre, mais ils sont encore petits. Tonton Chris, tes enfants sont en âge de comprendre. J'espère que tu leur as fait part de cette tristesse.
Je n'y manquerai pas quand ils viendront visiter la prochaine fois à l'EHPAD. Mais comment ça, les enfants, ils viennent à l'EHPAD une fois tous les 6 mois et en plus, c'est pour que tu leur sortes le chien. Alors, hein, on verra.
On verra, mais alors que nous étions en train de clore ce chapitre Undertaker, coup de théâtre.
Ringside est dans la place. Catch up, Undertaker.
Salut les Marks, salut les Smarts, bienvenue dans Catch Up.
Ringside.
Le podcast transpire le catch.
Vous nous parlez du Fatal 4-Way féminin.
Voilà, quel bel hommage à l'Undertaker que ce Fatal 4-Way féminin qui voit la victoire de Nikki Cross. Comment ça va les amis?
Ça va super. Ouais.
Vous avez pas raconté trop de conneries pendant que j'étais pas là?
Plein. Mais on t'attend justement, alors tu vas pas y couper, hein. Je te fais le même programme qu'à tous les copains. L'Undertaker, ben raconte-nous tes premiers moments, tes premiers souvenirs, tout ce que t'as vécu, quoi, tout.
Ouais, je vais pas tout vous raconter, hein, je passe en coup de vent. Hein. J'ai juste, voilà, oui, l'Undertaker, moi je l'ai vu débarrer. Plus charismatique de sa génération, le plus charismatique de ses 30 dernières années. Très peu de fausses notes dans sa carrière, même pour réfléchir quasiment pas. Alors on va peut-être critiquer un peu sa fin de carrière, mais je pense que ceux qui ont vu le documentaire Last Ride voient à quel point c'était finalement le combat d'un mec pour assurer le spectacle encore quelques années, puis un mec qui ne peut pas raccrocher, quoi. Donc c'est aussi à saluer. Puis voilà quoi, hein, j'ai pas... Voilà, c'est un peu toute ma vie de fan de catch, hein, ça a été porté quand même par l'Undertaker. Son arrivée, c'était quand même quelque chose que par le contrepoint parfait à Hulk Hogan, qui était la star à l'époque. C'est vraiment le vrai personnage qui fait que j'ai pas lâché le catch, je pense, pendant toutes ces années, parce que il y avait une perfection dans sa façon d'être l'Undertaker. Tout au long de sa carrière, il a su se renouveler quand il fallait se renouveler, quand il est passé à l'American Badass. Tous ses matchs, généralement, à WrestleMania, c'était plutôt des grands moments. C'est vraiment un mec qui symbolise la WWE dans ce qu'elle a de meilleur. Et voilà, je pense qu'il fait une sortie qui est, dans les conditions actuelles, qui est plutôt classe et... J'aurais aimé que ce soit un show en public. J'espère qu'ils en feront un quand le huis clos sera terminé. Et puis qu'on aura une grosse cérémonie de Hall of Fame pour l'introniser, pour que ce soit fait en grande pompe comme il se doit, quoi.
Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire si toi tu l'as vu en live ou pas, et puis nous extraire un top 3 de match alors que le vent souffle beaucoup chez Ringside, visiblement.
Je l'ai jamais vu en live, malheureusement, je le verrai jamais.
Ça peut être
un grand, grande déception de ma vie. Après, un top 3 des matchs. Moi, je me souviens de son match contre Kurt Angle, qui était quand même assez incroyable. Toute sa fin de carrière, sa deuxième carrière, quand il affronte Shawn Michaels, hein, forcément. Et je me souviens d'un... Alors ça, c'était en tout début de sa carrière, dans un épisode de Superstar. Je crois que c'était avant encore que Monday Night Raw existe. Il avait fait un match contre Bret Hart, en weekly comme ça, hein, qui était pour l'époque, moi j'avais été bluffé par ce match. C'était ça fait partie des matchs qui m'ont aussi totalement converti au catch à la WWE. Et ça, c'était vraiment au tout début de sa carrière, quand il était encore le zombie imbattable qui vendait aucun coup. Et Bret Hart avait été le premier peut-être catcher à résister un petit peu au Taker. Ça avait donné un match assez incroyable.
On te sent très ému, Ringside. On te sent pleurer là. Ça va?
Oui, j'écrase ma petite larme quand même.
Et ouais.
C'est un peu le dernier catcheur de ma génération finalement qui s'en va là. Et on reste plus qu'avec ceux qu'on a vus dans le ring cette semaine, quoi.
Les petits cons.
Ouais. Voilà.
Corbin, le nouveau taker.
Ouais, Wyatt, ouais.
The Last Outlaw, hein.
The Last Outlaw. Ah, qui sera le nouveau taker? Ah, bah, ouais. Ça, je sais pas. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit arrivé encore.
Non, peut-être
il est
pas.
Certainement pas né encore.
Peut-être qu'il est en ce moment dans le salon de Yerem en train de regarder les 12 travaux d'Astérix.
J'y travaille. Je fais all-in là-dessus. Hein. C'est mon projet.
Bien, ben voilà, merci Ringside pour ce petit hommage. Ça nous a fait plaisir puisque nous avons eu toutes les générations, là, ceux qui l'ont connu, qui ont vu ses débuts à New York, au Madison Square Garden, Survivor Series 90, ceux qui ont accroché les wagons en route, et puis bah, nous avons tous ensemble assisté à cette fin de carrière assez inédite, qui a eu plusieurs périodes. On l'a cru fini à la fin de la streak, on l'a cru fini quand il a déposé ses vêtements après le match contre Roman Reigns. On l'a revu en Arabie Saoudite, on se demandait un peu pourquoi ici. tous de nous avoir écoutés. À nouveau, je reprends. Bon, tu m'autorises à ne pas refaire toute la promo, Irem?
Ça ira pour cette fois.
Si Ringside ne nous entend plus, eh bien on va toutes et à tous vous dire un gros au revoir. À la semaine prochaine. Continuez à suivre Catch Up. Gros bisous. Thank you, Undertaker. Merci, Mark Calloway. Et à très bientôt pour de nouveaux shows de catch sur Catch Up. Ciao, les amis. Ciao.
Salut.
Thank you, le Taker. Thank you, Rafa.
Salut, les gaziers. Salut, Papa le Gadget. Rest in peace.